veux commencer à réagir.
Bah, moi, j'ai beaucoup de questions, mais forcément. Voilà. Mais c'est-à-dire que c'est aussi sur les, quand tu as abordé plusieurs textes, ça. Par exemple, quand tu as parlé de la tour de Babel, c'est un sujet en soi, mais le rapport n'est pas simple parce que tu as intégré le Midrash, mais dans le texte, le rapport qu'on soit dans une recherche de solution, c'est pas immédiat du tout. Ensuite, il n'y a pas non plus Nimrod, c'est pareil, tu fais un rapport avec le pshat, enfin le commentaire de Rashi, mais dans le texte. Ce qui est étonnant, c'est que c'est une sorte de projet collectif, mais qui se formule alors là, de manière collective. Il n'y a pas quelqu'un qui lance le. Il n'y a pas cette idée de Nassi.
Au niveau du pshat.
Bah, au niveau du texte, oui. Mais si tu veux. Bon. Il y avait beaucoup de choses dans ton propos, mais parfois suivre, il fallait passer. Voilà. Donc, disons, ce serait, disons, la comparaison que tu fais entre la question du Ta'anit Tzibour. Du Nassi qui en soit une question, et puis le texte de la tour de Babel n'est pas évident pour moi. Bon. Après, la question, c'est aussi la question de la question que je me suis posée, qu'est-ce que c'est que cette histoire du jeûne pour qu'il y ait de la pluie? C'est quand même ça le point de départ. Et ce que tu appelles le Nassi comme étant le politique, mais la question du Nassi dans la Gemara, c'est pas quelque chose de clair, le Nassi. Tu as des textes dans la Gemara, un petit chine, je me souviens, qui peuvent être très critiques sur le Nassi, sur le Resh Galuta, etc.
Ouais, justement, entre parenthèses, cet aspect du Resh Galuta, c'est intéressant. Parce qu'on aurait très bien pu dire que le Resh Galuta aurait pu être origine d'un Ta'anit Tzibour. Or, personne ne dit ça. C'est-à-dire qu'on exclut cette idée-là. Pourtant, l'équivalent, le pendant du Nassi, c'était le Resh Galuta.
Alors, justement, la question est de savoir. Justement, c'est une question, c'est de savoir si le problème, la différence entre Eretz Israël et Babel, c'est les différentes. Tu as retenu la position du Rambam. Il y a quand même une position, il me semble, qui sans dire que c'est qui est latente, enfin qui doit être interrogée, c'est qu'il y a quelque chose de connu, c'est que la différence entre Eretz Israël et Mitzrayim, c'est que le Nil fait que l'eau. L'eau vient du sol. Et qu'en Eretz Israël, l'eau, elle vient du ciel. Et que ça, c'est une construction qui est dans toute la tradition.
Il est très présent dans Ta'anit. Hein.
C'est tout Ta'anit sur la question que même l'Azria, le Seder Zraïm, c'est la question de la Emouna. Parce que tu plantes et c'est la question de tu plantes un projet et sa concrétisation passe par la question de la foi. Et que. Alors que la maîtrise technologique du fait du Nil et de la maîtrise de l'irrigation fait que tu n'as pas eu tout ce même rapport-là. Et donc, qu'a priori, la différence connue entre Eretz Israël et Mitzrayim, c'est cette différence-là. La question de la Emouna, que la pluie vient du ciel. C'est d'abord un enjeu existentiel de Emouna qui peut se traduire comme un terme métaphorique, presque. Et donc, ce qui fait que, comme à Babel, tu as aussi l'Euphrate, tu as aussi le fleuve, tu as aussi tout, historiquement la civilisation qui s'est construite là-bas sur les questions de l'irrigation, de toutes les ce qu'on appelle les canalisations, enfin le terme m'échappe, mais bref. Donc il y aurait un premier pshat qui, à l'oreille, demande à être, à mon sens, interrogé, c'est que pourquoi à Babel il n'y aurait pas, de la manière qu'on dirait qu'il n'y a pas en Égypte, au sens où. C'est une spécificité d'Eretz Israël, la question du rapport que l'eau ne vient que du ciel. Et ce qui fait qu'à mon sens, peut-être qu'on va avoir effectivement une approche différente de cette fameuse phrase de la Gemara, si on retient cette idée-là ou pas.
Donc tu exclus complètement, tu sors la question du Nassi.
Alors, non, parce qu'il faudrait interroger en tant que tel le texte d'Yerushalmi, mais si tu veux, il me semble que dans le contexte du Bavli, c'est-à-dire de la Gemara dans Ta'anit, il me semble que, mais il faudrait voir dans le texte, il me semble que la première idée qui, je ne sais pas qu'elle s'impose, mais qui demande à interroger, c'est aussi celle-là. Et que la question aussi de la position du Nassi, pour te dire pourquoi on n'interrogerait pas, c'est parce que ça ne serait pas forcément la question du Nassi, bien que de toute façon aussi, effectivement, elle se pose la question de, du Nassi par ailleurs, de qui est le Nassi du Avbeddin dans la Gemara que tu as ramené dans Yerushalmi, mais si tu veux le traduire directement dans la manière de la question du politique, j'entends, mais.
Donc, mais il me semble que tu vas peut-être tomber dans l'écueil de Tosfot, pour prendre ton idée de manière très terre à terre.
Ouais.
Vraiment très, très terre à terre. Tu vas retomber dans la question de Tosfot, de dire ok. Alors, tu dis que c'est des archétypes, c'est-à-dire que l'Eretz Israël serait la seule à jouir uniquement de l'eau du ciel et pas les autres. Mais imaginons qu'une autre terre, elle, serait aussi abreuvée par le ciel. Ben, finalement, quelle différence avec l'Eretz Israël ? L'Eretz Israël perdrait complètement sa spécificité. Donc, sauf si maintenant tu dis que c'est des archétypes, alors la Torah a défini comme ça, ok, très bien. Mais c'est ça que j'aimerais comprendre dans ce que tu dis. Jusqu'où tu mènes le truc en disant qu'Israël serait le seul à bénéficier de ce type d'avantage.
Bah, l'autre question, c'est que est-ce que c'est vrai que la question du collectif se construit, telle que tu l'as posée, qu'en Eretz Israël, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, ça, c'est une question aussi de traduction. Comment on va traduire les problématiques qui sont dans Ta'anit sur la question du jeune. Alors tu l'as abordé un petit peu, mais je ne vais pas trop. Ben voilà, j'essaie de synthétiser ce que je veux dire en deux phrases pour ensuite faire circuler. Mais voilà, le point qui m'a semblé, c'est qu'effectivement, très clairement, il y a une question sur la question du Ta'anit Tzibour, qui est que la difficulté matérielle va concerner tout le monde. Donc il y a l'idée d'un concernement qui concerne tout le monde, et qu'effectivement, il y a des passages en Gemara où la position du Nassi. Sont un peu des positions qui sont, on pourrait presque dire, déconnectées des réalités sociales. Il y a des critiques, il y a un passage de la Gemara dans Kiddushin, il y a carrément un embourgeoisement, en certaine manière, du Nassi, même dans son langage, la critique qui emprunte le langage des notables de Babel. Donc il y a, à mon sens, une préoccupation comme celle-là, c'est comme tu l'as dit dans ta deuxième proposition de lecture, je crois, que la question de toute Ta'anit, c'est effectivement la question de qu'est-ce que veut dire que l'eau vienne du ciel, qu'est-ce que ça veut dire aussi en termes métaphoriques, et que la question du politique, à partir de là, comment on va l'aborder, ça va se poser différemment. Enfin, ça peut se poser différemment.
Donc je suis convié à dire quelque chose. Non, merci beaucoup pour. C'est complexe. Et c'est complexe parce qu'il y a même parfois des contradictions. S'il n'y a pas de Tzibour, effectivement. Et pourtant. Donc, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que vous avez utilisé plusieurs fois le terme mobilisation. Et c'est vrai, le jeune, c'est une mobilisation. Alors, le jeune individuel, c'est une mobilisation de soi. Mais le Ta'anit Tzibour, c'est une mobilisation collective. Alors, si c'est une mobilisation, c'est là qu'on touche la politique. C'est pas du tout... la politique, elle n'est pas dans l'exemple de la tour de Babel. Là c'est un problème. C'est la technique là, qui dicte sa loi. Problème-solution. Donc là, il y a jeûne, il y a mobilisation, mais la question, c'est sur qui on agit quand on jeûne ? Parce que c'est une action. C'est une politique, ça veut dire qu'on agit sur quelqu'un. On agit pour prévenir quelque chose. Le jeûne vient toujours quand il y a un problème qui vient de l'extérieur. Alors, là, c'est une calamité climatique. Mais on sait très bien que, et d'ailleurs, je crois que C'est le Ramban qui dit, il commence quand même par dire que ce n'est pas nécessairement un problème climatique, ça peut être n'importe quelle catastrophe. Donc on sait toujours que chez Nachmanides, le Ramban, l'interprétation est toujours plus politique que chez les autres. C'est pour ça qu'il est particulièrement intéressant à scruter de près. Alors, mobilisation, donc, sortie de la vie, comme vous avez dit, de l'intimité, des problèmes, des occupations de la vie quotidienne. Donc, on s'arrête de manger, on s'arrête d'avoir des relations intimes, donc tout le monde est mobilisé. Là, si on peut penser à un auteur, on pense plutôt à Carl Schmitt. C'est exactement ça qu'il dit Schmitt. En fait, que fait la guerre extérieure, c'est qu'elle vous tire de la vie quotidienne pour vous porter collectivement vers l'extérieur. Et le jeune, il est dirigé vers l'extérieur, vers la menace qui vient. La menace, elle peut être climatique, mais elle peut être de toute nature. Alors, la question que je me pose, que je vous pose, c'est qui est mobilisé dans le jeune ? C'est Yvan de demander, mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? En fait, qu'est-ce qui se passe dans... Quel genre d'activité est le jeûne ? C'est une activité qui semble plutôt une activité de ne pas faire. On ne mange pas.
Mais c'est pas juste une réponse vraie à ça, mais je vais juste avec un élément qui me semble avec...
Il y a un impératif, c'est l'acceptation préalable du jeûne. Et en fait, cet élément-là disparaît à l'occasion du Ta'anit Sibur. Dès lors qu'il y a Ta'anit Sibur, on ne requiert plus de Kabbalah préalable. Il me semble que c'est peut-être une clé du problème. On dirait que la Kabbalah, c'est la conscience du « je suis un individu ». Ce Ta'anit n'est qu'un vécu intime, individuel. Et il suppose que je le verbalise et que je rentre dedans de mon propre chef. Peut-être que le basculement, il se fait sur cette base-là. C'est-à-dire qu'on dirait que je vais quitter ma dimension individuelle à l'occasion du Ta'anit Sibur. Ce qui, lui, qui m'en donne la possibilité, c'est peut-être le Nasi. Mais qui fait que j'ai plus, qu'on m'arrache à cette dimension individuelle, ne te polarise plus sur la dimension de Kabbalah qui n'est qu'une expression de ta subjectivité, mais ouvre-toi à une dimension collective. Maintenant, qu'est-ce que ça dit du jeûne en tant que tel ? Ça, il faut approfondir.
En tous les cas, dans les halakhot de Rambam, on voit clairement que le jeûne est une manière de forcer Dieu d'entrer dans le jeu. C'est quand même ça dont il s'agit. Le jeûne, c'est ça. C'est forcer Dieu d'entrer dans le jeu. La solution n'est pas technique, ça peut bien faire ressortir. Mais si elle n'est pas technique, eh ben, il faut entrer. Donc c'est une manière quand même de... On sait que le jeûne est une figure de la politique. C'est la manière de faire entrer la puissance de Dieu dans la situation. Dans une situation qui est détériorée, dangereuse. Ça vaut pour Ta'anit Esther, mais ça vaut pour Ta'anit Sibur, tel que vous l'avez décrit dans sa forme. C'est forcer Dieu d'entrer dans la situation.
Mais j'ai une question là-dessus, justement. Est-ce que ce n'est pas une fausse situation, puisque d'avance, s'agissant de la question des pluies, aucune solution technique n'est possible. C'est-à-dire, ce qui aurait été peut-être, ce qui serait le lieu d'une stratégie politique, c'est prendre un cas où une solution technique est possible et où le peuple décide de ne pas faire cas de cette solution technique et de se retourner vers un jeune. Et quand on prend d'avance la question de la pluviosité, qui ne se prête à aucune solution technique, on sait d'avance donner, si je puis dire, la solution non technique. Donc il y a quelque chose ici qui est un peu vicié d'avance, je ne sais pas comment formuler.
Et c'est pour ça qu'il faudrait avoir des gradations. Je pense, alors, on va voir du côté des historiens,
combien de jeunes collectifs ont été déclarés à Babel ou dans l'histoire des Juifs dans l'Europe chrétienne? Combien? Est-ce que c'est une pratique courante? Moi, je pense que oui. Je pense qu'on en a déclaré des centaines au Moyen Âge. Mais bon.
Finalement, on surenchérit dans le politique, quoi. C'est-à-dire que on a dit, on va lui dire quelle est ta place. Il m'a semblé que ce que j'ai proposé de lire dans Ramban, c'est pas forcé, c'est lui laisser la place. C'est jusqu'à présent j'occupais tout l'espace. Et maintenant, je dis, OK, je recule, je suis capable de dire, voilà ma limite. Mais il ne s'agit pas de forcer ici. Peut-être ça, c'est un premier point. Tu disais, les pluies, elles nous confrontent à l'inéluctable, quoi. On ne peut rien, c'est comme ça. Mais c'est quand même frappant qu'à Babel, ce n'est pas comme ça. Ils sont confrontés, ils ont vu le déluge. Mais ils veulent quand même chercher des solutions techniques. C'est pour ça que je parlais de qui était presque ridicule dans leur attitude.
Ils cherchent des solutions. La tour de Babel.
Oui, la tour de Babel, pardon. Oui. À la tour de Babel, ils cherchent. Lui par les Midrashim, ça, je suis tout à fait d'accord. Les Midrashim évoquent des attitudes, d'ailleurs, elles déclinent des attitudes différentes selon des types de populations. Ils vont dire, on est capable de mettre en œuvre des solutions techniques. Donc, il y a cette recherche malgré tout, quoi.
C'est vrai qu'en même temps, voilà, dire deux choses. Sur la question des Midrashim, il me semble que les Midrashim font un lien entre le Maboul, l'épisode du déluge, et la tour. Et que il me semble que le c'est ça qui est visé, c'est ce lien. C'est ce lien. Donc, si tu veux, l'image de la solution technique, il me semble que c'est à prendre un peu avec des pincettes, parce que tu vois bien qu'en même temps, ce qu'il s'agit d'élaborer, c'est le lien entre la génération, enfin, ce qui c'est le Babou, le déluge, et ce qui se passe dans l'épisode de la tour de Babel, qui à mon sens demanderait serait un sujet en soi en quelque sorte, parce que finalement il y a deux sujets, il y a la question de la tour de Babel et il y a cet énoncé du Bavi dont tu es parti, Entalit be Babel, et sur le Entalit be Babel aussi, je pense que l'autre point que je voulais dire tout à l'heure, mais que tu as touché tous ces points, on réfléchit ensemble, hein, ce ne sont pas des objections. C'est que, tu vois, on entend aussi que, comme tu disais, quand on dit il n'y a pas de collectif, je ne sais pas si je le formulerais comme ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre des gmarotes qu'on voit ne prend pas le bateau avec une certaine personne parce que tu vas te retrouver à partager son destin et il y a certaines personnes avec qui, justement, tu ne dois pas te retrouver dans des situations comme ça où, en quelque sorte, tu es dans le même bateau. Parce que ici, en quelque sorte, à Babel, on est dans le même bateau. Donc, quand il y a une sécheresse qui frappe Babel, c'est, on va dire que les Juifs israéliens ne se sentent pas concernés dans leur intimité parce qu'en quelque sorte, c'est quelque chose qui tombe sur tout le monde, si je puis dire. Quand ça se passe en Israël, il y a quelque chose de l'ordre de ça nous concerne intimement plus davantage. Et donc... Donc c'est plutôt en ces termes, ce qui ma difficulté, voilà, c'est d'interpréter cette différence comme étant quelque chose de l'ordre de qu'il y aurait un pouvoir politique incarné par le Nassi qui serait opérant en Eretz Israël et pas opérant à Babel. Je ne sais pas, c'est ce point-là qui m'a semblé un petit peu brouiller les cartes.
Donc il faudrait soit récuser, c'est un peu difficile, mais il va falloir... On va travailler sur le Ramban, quoi. Pourquoi le Ramban prend le Yerushalmi comme décisif, comme une lecture du Bavli, finalement? Parce que c'est lui qui fait le lien entre les deux. On n'était pas obligé. On aurait, je sais pas, on a fait une Marc Loquet, Babli, Yerushalmi. Non, et c'est lui qui nous dit la clé de lecture, on la trouve là. Ce que tu dis, c'est que on n'est pas, finalement, on n'est pas obligé, quoi. On peut rompre le lien entre les deux et pas convoquer la figure du Nassi pour autant. C'est ça?
Oui, tu as raison. En ce sens, ça serait, ce que tu, en ce sens, on pourrait dire comme ça, que tu as proposé, toi, une lecture de ce Ramban-là et que moi, ce que je dis sortirait du cadre de ce que propose le Ramban, si je te suis. C'est un peu ça la question. Mais il faudrait voir après, effectivement, peut-être.
Non, jusqu'à quel point on est contraint d'aller d'avoir recours à ce Ramban, quoi. C'est ça ce que tu interroges.
Non, bah, disons que je pense que tu es... pas forcément contraint. Maintenant, c'est vrai que si tu proposes sur un ban et que tu proposes une explication, alors là, ça devient une contrainte. Effectivement, je ne sais pas. Disons que voilà, c'était les points. Je te souviens les points sur lesquels j'accroche d'une certaine manière.
Merci beaucoup pour cet exposé qui était effectivement très riche. Alors, je vais rebondir aussi sur les remarques qui ont été faites et pour savoir si on peut effectivement essayer de mieux caractériser le contenu du jeûne. Même si dit comme ça, c'est un peu paradoxal.
Ça voudrait
mieux parler. Oui, pardon. Qu'est-ce qui, dans les textes, nous empêcherait de considérer le jeûne lui-même comme une technique du corps collectif qui va permettre de produire quelque chose, soit un comportement, soit une forme de renoncement, une attitude morale. Parce que j'ai entendu un peu la démonstration ou l'argumentaire comme la chose suivante, c'est-à-dire on oppose les techniques qui seraient un peu vaines et qui serviraient à occulter finalement la question fondamentale, au jeûne qui serait une réponse peut-être plus morale ou plus spirituelle, qui laisserait aussi la part à la providence. Et je dis ça parce que vous avez mentionné Foucault un moment, et donc je pensais que le politique est beaucoup le biopolitique en tout cas, est beaucoup des techniques du corps, qui fait que il y a moins d'investissement de l'État grâce à des techniques du corps qui permettent d'intérioriser les normes, etc. Donc, c'est une espèce de ce qu'il appelle l'anatomopolitique aussi. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un déplacement là? Est-ce que c'est un autre genre de technique, peut-être? Ou alors, est-ce que c'est aussi... ma question aussi sous-jacente, parce que en plus, les questions écologiques sont des questions qui sont des critiques de la technique ou de la technologie. Voilà. De savoir si aussi on oriente la lecture des textes ou l'interprétation des textes vers systématiquement une critique de la technique. J'aimerais bien savoir comment se positionnent les uns et les autres sur cette question.
Si j'avais un indice, c'est-à-dire que sur votre avis, je peux pas savoir. Peut-être que l'ouverture du sujet va se situer au niveau du discours qui a que le jeune ne se suffit pas à lui-même.
Mais qu'il y a une volonté de dire au peuple que ne t'arrête pas là. Il me semble que c'est ce que dit Zaken, quoi. Il dit attention, quoi. Il y a une tentation de voir le jeûne comme une technique et de s'en suffire. Tout va bien, on a jeûné, ben on a tous vécu ça. Enfin, dans la pratique juive, c'est peut-être un risque majeur. Tout va très bien. Et il me semble que le Zaken vient, l'ancien du peuple vient fait échec à cette attitude-là en disant très bien, t'as pas compris que ça n'est finalement aussi, que ça peut n'être qu'une technique, mais je vous invite. À accompagner ça d'un changement de société. C'est-à-dire, vous devez, et d'ailleurs c'est très frappant hein, dans les Gemarot, dans le traité d'Anit, c'est qu'on va, aller à la recherche des injustices dans la société juive. C'est-à-dire qu'à cette occasion-là, on va convoquer tout le monde, qu'est-ce qui se passe, pourquoi un tel a été lésé, etc. Il y a une recherche comment dire, extrêmement presque microscopique de ces injustices-là. Donc ce discours-là, il est là pour mettre en garde par rapport à ce risque-là. Tu pourrais en faire une technique. N'oublie pas qu'à Ninive, ce qui s'est passé, c'est que ce que Dieu a vu, ce n'est pas ce jeûne, c'est les actes. Donc, pour déjouer ça, il me semble que le discours a cette fonction-là. Mais ce n'est qu'une proposition.
C'est même dans le style, enfin, c'est vrai que le jour de Kippour, le Vinas, il l'a dit, que le texte d'Isaïe, quand on lit le jour de Kippour, c'est précisément ce que tu traduis comme le texte du Zakène.
J'entends pas bien.
Je dis qu'il y a un texte de Lévinas, justement, où il cite un texte du prophète Isaïe, qui est lu le jour de Kippour, où le texte du prophète Isaïe dit précisément ce que David vient de prêter aux Akènes. C'est-à-dire cette idée que ce ne sont pas simplement vos jeûnes qui m'intéressent, mais c'est que vous soyez soucieux de la justice sociale, que vous vous souciez de l'orphelin et du pauvre, que vous libériez l'opprimé, etc. Donc, évidemment, c'est un leitmotiv. Mais bon, après aussi, dans Ta'anit, il y a une particularité sur la question de la contingence de la pluie. Ce que veut dire à la fois en termes géographiques et aussi dans sa traduction existentielle, métaphysique.
La contingence est précisément un problème. C'est-à-dire soit à la contingence, soit à la providence. Si tu as la contingence, tu as la solution technique. Si tu as la providence, tu as la possibilité d'agir autrement. Manifestement, c'est agir autre, c'est le jeûne. Mais le jeûne n'a de sens que dans le contexte de la providence. C'était le troisième point. Si tu penses que c'est un effet du hasard, eh ben, c'est là tout le problème. C'est là tout le problème. Donc il faut qu'il y ait le plan de la providence. S'il y a le plan de la providence, il y a la question de la faute ou de la responsabilité. S'il y a la question de la faute ou de la responsabilité, à ce moment-là, se joue quelque chose. Le jeûne est une action dans une relation. Dans la relation avec Dieu, il se joue quelque chose dans la relation avec Dieu. Et si tu penses que c'est le hasard, ne se joue que la catastrophe qui ne peut pas prendre sens dans la relation. Or, tout là consiste à faire entrer la calamité dans le sens de la relation. Et dans la gestion de la relation, le jeûne est une technique. Elle est une avec Dieu, du peuple avec Dieu. Même ça, le point. C'est quand même Ta'anit Tzibour, c'est-à-dire c'est le peuple qui ne fait plus qu'un dans le jeûne. Il ne fait plus qu'un dans le jeûne pour modifier, apporter une modification dans la relation à Dieu. C'est ça le sens du je me trompe. Donc, c'est la capacité qu'a le peuple lui-même, puisqu'il doit. Il y a quand même la nécessité de la repentance. Et repentance pourquoi? C'est-à-dire quelque chose s'est déréglé ou quelque chose ne va pas dans les attentes mutuelles. Donc c'est une manière de rétablir un équilibre dans les attentes mutuelles. Parce que la pluie ne vienne pas n'est pas l'effet du hasard. C'est quand même ça. Que la pluie ne vienne pas ne peut pas être l'effet du hasard. Dans un monde... Alors, là, il y a controverse apparemment, puisqu'il y a des choses qu'il ne peut pas y avoir de Tzibour à Babel ou bien là où on est un peu perdu. Mais disons... Le jeûne
collectif en tant que tel, c'est ça qu'il vise. Alors, je sais, est-ce qu'il est autorisé, pas autorisé? Est-ce qu'il peut y en avoir? Est-ce qu'il faut le nazi, pas le nazi? Je ne connais pas les textes de près. Mais je pense que, de ce que moi j'ai lu, je pense qu'au Moyen-Âge, par exemple, il y a eu beaucoup de jeunes collectifs. Devant, il y a eu plusieurs solutions devant. Alors, je prends les situations les plus politiques. Ce n'est pas des questions climatiques. C'est une question d'hostilité, autant des croisades. Il y a eu plusieurs possibilités. Prendre les armes, c'est arrivé. Jeûner. Se donner soi-même la mort. Il y a eu les trois options. Le jeûne a toujours fait partie de la technique, des techniques de... en fait, de la politique. Mais alors, la politique, naturellement, elle est toujours biface. Elle est d'une part liée au fait qu'il y a faire face à l'hostilité et faire entrer Dieu quand même, parce que c'est faire entrer Dieu dans la situation afin de que cela pèse favorablement en faveur du peuple.
Ça veut dire parce qu'il y a un débat dans les commentateurs à savoir est-ce que
ça marche aussi pour d'autres calamités, ou en tout cas ça peut être mis en œuvre pour d'autres calamités. Oui. Je pense que ça touche à ce que vous dites, quoi. C'est... Ouais.
Moi, j'ai une petite question, enfin réaction aussi, c'est que en définitive, si le jeûne c'est l'unité du peuple, c'est qu'en fait on a et en même temps une espèce de dessaisissement du politique par lui-même, c'est-à-dire que si le nazi descend, c'est qu'il se dessaisit de sa nature politique, c'est qu'on a un collectif non politique ou un politique non politique, et je trouve que c'est très fort, c'est-à-dire que ça nous donne à penser qu'il y a une collectivité qui peut grossièrement et de loin assumer le rôle, la fonction du politique, mais qui n'est pas politique. Et peut-être que c'est de ce côté-là que l'unité du peuple est à chercher. Bon, donc moi je trouve que c'est très suggestif. Alors après j'ai deux questions, mais vraiment très simples. Premièrement, l'hypothèse du hasard, vous l'avez dit, renverrait à de l'arzariout dans le texte de Maïmonide, c'est-à-dire si on dit que tout ça est du hasard, ce serait extrêmement cruel. Et j'aimerais comprendre le sens de cette cruauté, en fait. C'est un peu étrange, parce qu'en fait, il y a de cruauté que s'il y a une intention qui se manifeste sur quelqu'un, et on trouve que, si je puis dire, et pardonnez-moi le blasphème, mais seul un dieu peut être cruel quand il ne rend pas justice pour justice. Quand le hasard est à l'origine des choses, ça peut être dénué de sens, mais pas cruel. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, elle est aussi très, très, très élémentaire. Que comprendre de la métaphore matrimoniale entre le nazi et le Abed-Din dans l'interprétation du verset d'Yoël, le marié et la mariée? Qu'est-ce que, au-delà du fait que la mariée disparaît, mais en fait, elle disparaissait peut-être pas, on s'en est rendu compte. Peut-être que ça c'est vraiment une question technique, comment se répartissaient les pouvoirs pour que la métaphore matrimoniale soit pertinente?
Dame, ce qui est cruel, c'est de subir des calamités sans avoir commis de faute. C'est ça qui dit Manuel.
Oui, je crois que.
Là, c'est la cruauté, précisément.
Oui, mais. Parce que la question se repose. C'est juste un non-sens. Dans un univers qui serait gouverné par le hasard, c'est-à-dire en fait par le pur déterminisme, parce que c'est la même chose. Il n'y a pas de sens à parler de cruauté. Les choses sont telles qu'elles sont et on les enregistre telles qu'elles sont.
Mais justement, ici, ce que dit Rambam, c'est à réseau derrière Arzariout, c'est-à-dire que c'est le peuple qui fait preuve de cruauté en agissant de la sorte. Arzariout, Ravolbeu explique ça comme ça, et c'est Arzar, seulement étranger. Seulement. Donc, c'est se considérer comme tout ça ne me concerne pas. Il me semble que ça, c'est que cet Arzariout ici, peut-être, est à prendre comme une prise de distance.
C'est pas mon problème, tout ça se déroule,
ça ne me regarde pas. Ouais, il me semble que ça. Alors, ce que vous dites.
Pourquoi est-ce que le zar n'est pas la calamité dans cette explication?
le hasard pourrait être le fait que c'est simplement quelque chose qui vient d'extérieur.
Non, c'est, je me considère étranger à cette chose. Je n'ai rien à voir avec c'est ça, ça ne me concerne pas. C'est, il me semble que c'est le plan d'Abraham. Je m'arrache à toute cette histoire-là, et puis moi, je n'ai rien à faire. Tout ce que je ne peux rien apporter à cette situation. C'est Arzariout, je le lis comme ça. Quant à ta seconde question, vous vous rejoignez, là, j'avoue, je sèche. Je sèche complètement. Parce que pourquoi cette dimension féminine chez le Avedin, waouh, surtout pour quelqu'un qui s'appelle Avedin.
Oui.
C'est embêtant. C'est très embêtant. Je ne sais pas.
C'est-à-dire qu'on a quand même le sentiment, ça vérifié, mais que le Avbeddin, c'est quand même quelqu'un, a priori, qui est un grand en Torah.
C'est comme ça que Rambam le définit explicitement.
Le Nassi, lui,
grand en Torah.
Il est grand en Torah, le Avbeddin. Il, c'est un sage. Alors que le Nassi, c'est beaucoup plus compliqué. Ça peut être une position sociale. Mais en tout cas, il y a des passages dans la Gemara où il y a des positions où le Resh Galuta, c'est-à-dire c'est correspondant du Nassi à Bavel, où il y a une hostilité des sages à son égard. Il n'est pas. Enfin. Donc, c'est une position qui peut être sociale. Et
ou à risque social, en tout cas. Pas forcément nécessairement social, mais à risque de tomber dans le social.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en tout cas, il peut être Nassi, pas parce qu'il est quelqu'un de grand, mais pour des raisons autres. Donc, c'est pour ça que c'est
des choses difficiles. Justement, de la distinction entre... C'est Meiri, je crois, qui dit, si je me rappelle bien, que c'est pas seulement que Nassi qui, lui, serait le pouvoir politique, mais une position de savoir. Qui pourrait aussi descendre. À ce moment-là, on échappe aux politiques. Voilà. Et donc, quelle est cette position de savoir qui vient? Comme si, finalement, il fallait que. Moi, je crois qu'il y a dans ce que vous avez dit sur le terme d'humilité et de limite. C'est-à-dire que cette position de savoir, elle-même, elle aurait. Même quand bien même elle serait religieuse. Elle aurait une limite quand elle est toute seule. Et que peut-être il faut qu'il y ait une unité là aussi pour que ça porte. Après, l'autre chose qui peut me gêner, c'est quand on parle de technique. C'est-à-dire qu'on rend le jeune de la même façon que le reste. Peut-être qu'il faudrait lui trouver, moi je ne suis pas bien placé pour ça, malheureusement, mais il y a peut-être une spécificité au jeune qui n'est pas une technique. Qui dit quand même. Alors, bien sûr, on pourrait dire que c'est technique de dire de se départir d'une matérialité. C'est technique, oui, mais c'est pas pareil que le reste, je crois. C'est parce que d'une certaine façon, ça le rend pauvre. Enfin, mais bon, je sais pas, je sais ça.
Si je faisais appel, pardon, je suis tout à fait conscient de cette différence.
Le seul Tanit qu'on voit dans la Torah, c'est Kippour. Ben Tanit oui. Porte le mot inouï, la racine inouï, donc privation, mortification. Encore une fois, il faut bien distinguer les dynimes de la Torah et les dynimes des Taniot. C'est pas les mêmes. Au niveau strict d'arrivée, c'est pas la même chose. Mais c'est intéressant que la Torah, quand elle définit la dimension de inouï, nulle part la Torah dit il est interdit de manger à Yom Kippour. Elle dit inouï. D'ailleurs, au niveau halakhique, c'est pas la même chose. Achila, c'est Bekazaït. Quand on mange, c'est un minimum de volume de mélive. Ça s'appelle manger. Sauf que le seuil de faute à Yom Kippour est plus élevé. C'est une forme d'être rasséréné d'une certaine manière. C'est ça qu'on appelle inouï. Donc, j'irai un peu dans votre sens. C'est que si c'était, encore une fois, en gardant bien, en réfléchissant bien dans les catégories de la Torah et les catégories des Chachamim. Mais peut-être que l'idée, c'est pas que la technique, c'est pas que la privation, c'est quelque chose qui est d'un ordre un petit peu différent. La technique, ça serait ne mange pas. Donc là, on a un résultat immédiat avec je me prive, donc j'ai un résultat. Peut-être qu'on est sur un registre un petit peu différent, qui serait de l'ordre qui se jouerait peut-être à ce niveau-là, à réfléchir.
Mais il
ne
faut pas prendre technique, je pense, dans le sens trivial. C'est-à-dire, c'est le moyen d'être entendu. Comme une prière, c'est une prière. On peut prier, ne pas être entendu. Alors on peut prier plus fort, ou avoir plus de conviction. Si ensemble.
Est-ce qu'on va pouvoir se faire entendre?
Oui, mais c'est pas donc, c'est juste du peuple, c'est un jeune qui fait intervenir. À la limite, il n'a pas de validité s'il n'y a pas ni le nazi d'un côté, ni l'homme de savoir ou le pouvoir du savoir de l'autre. Il est invalidé d'une certaine façon. Donc, c'est qu'est-ce que ça englobe d'exceptionnel? Pourquoi le pouvoir politique doit descendre et se mêler? Et pourquoi, s'il n'y a pas de pouvoir politique, un pouvoir du savoir qui lui-même doit venir ici? Qu'est-ce qui se joue dans le fait de...
Il doit descendre dans le peuple parce qu'il est impuissant.
Voilà. Oui, je crois.
Il faut aller du coup, le jeune, c'est venir assumer cette impuissance. C'est en effet pas une technique au sens où ça marcherait toujours, et même, ça doit marcher. C'est presque la technique de ce qui ne marche pas automatiquement, comme le pire d'ailleurs.
Du coup, pour marquer un écart avec ce que tu disais, quand tu disais la prière ou le jeûne, c'est une technique pour se faire entendre. Je crois que c'est le moment où la technique se défait d'elle-même. Enfin, elle est dans l'impouvoir, quoi. Elle essaye de faire quelque chose, mais elle n'ignore pas que de toute façon, ça ne marchera pas. Et c'est pourquoi je trouve que le mot technique, finalement, n'est pas adapté. Ben parce que la prière, elle ne suture pas la transcendance divine ou la béance entre Dieu et l'homme. Entre le fini et l'infini, parce que la prière, elle n'offre pas de garantie de succès, parce que de fait, on peut tout à fait critiquer d'ailleurs des prières qui seraient des prières de demande, et des prières de... C'est pas des mécanismes, si je puis dire, théologiques, où on obtient de Dieu ce qu'on veut à la faveur d'une formule prononcée.
À la fin du cycle des derniers cycles, il y a un stade où on dit ça n'a pas marché, imaginons que ça n'ait pas fonctionné, la pluie n'est pas arrivée, bon, on arrête. Il n'y a plus de tannit, on reprend la vie normale, etc. Et c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire, il y a un moment où, même ça on assume que ça ne peut pas avoir qu'une fonction technique et que ça même, on doit savoir la limite.
Ça va presque contre moi parce que justement, ça a une fonction technique. La preuve, c'est que quand ça ne marche pas, on arrête.
Donc, non, si mais dire, au sens où tu dois même savoir renoncer à ça. Ouais, c'est-à-dire que même ça, il faudra accepter de renoncer.
Moi, je pense que jeûne comme prière sont des moments de reconnaissance de l'impuissance. Et à la limite, je dirais que le jeûne dans cette situation-là, c'est une manière d'aller jusqu'au bout de l'impuissance que révèle la situation.
Oui, mais ça révèle la puissance du qui, parce que l'impuissance...
Ah ben, du corps collectif, quel qu'il soit, de oui. Quelque manière qu'on le dit, ou de l'homme...
Qu'est-ce qui remplit le vide de notre impuissance dans le jeûne? Qu'est-ce qui remplit le vide de l'impuissance? Qu'est-ce qui est visé dans le jeûne?
Ah mais c'est toute la... Mais justement, c'est... Enfin, je veux dire des choses triviales, mais c'est ne serait-ce que la fragilité physique dans laquelle on se retrouve, qui tout d'un coup nous rappelle que...
Ça, c'est une interprétation psychologique.
Non, mais c'est trivial. Psychologique peut-être, mais en attendant, il y a une manière de... On ne se sent jamais plus fragile que dans un jeûne. Et la prière est une manière de mise en scène de cette fragilité-là. Enlevons le mot de mise en scène, toutes ces connotations justement artefactuelles ou techniques. Pour moi, je le vois comme ça. Je me trompe. De toute façon, il y a une part peut-être aussi psychologique.
Non, mais moi, je le vois comme une demande d'intervention. C'est adressé. C'est quelque chose. Le jeûne est adressé de la même manière que la prière est adressée.
Oui, mais alors si, mais c'est pas de la prière dont il a parlé, c'est du jeûne. Donc c'est bien de la spécificité du jeûne.
Oui.
Si on loupe la spécificité du jeûne, on loupe le raisonnement. C'est-à-dire c'est particulièrement le jeûne. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le jeûne? Il y a une sorte quand même, le maximum qu'on peut faire d'une dépossession matérielle du monde. C'est une rupture avec le cours du monde. Il n'y a plus de temps réellement, d'une certaine façon. Et cette absence de temps, de matériel réunis dans une collectivité, c'est comme les joueurs de foot qui, eux, vont essayer de monter à Tignes pour gagner la Coupe du Monde comme une partage d'émotions. Et ouais, c'est des techniques que dans toutes les entreprises, ils font ça. Là, c'est à l'échelle, là je le rends trivial, mais à l'échelle du peuple, c'est de vivre ça ensemble pour laisser advenir une autre dimension du monde.
Maïmonide, vous avez cité, je crois, Maïmonide.
Bah, laquelle? C'est la transcendance.
Il disait que ça réveillait.
C'est oui. C'est...
Ah, donc, ça, c'est pas le jeûne en technique, c'est le réveil.
Il y a une occasion, c'est pas quelque chose, mais une occasion pour une calamité. C'est la condition.
Comment? On voudrait bien que ça arrive pour pouvoir former ces groupes.
c'est une manière de gérer une situation. C'est pas un rapport général à l'aide. C'est une manière de régler un problème. Et vous l'avez dit, ça peut arriver là, ça peut arriver là. Ça concerne... la pluie ne tombe pas là, alors qu'elle tombe ailleurs. Donc c'est une manière de gérer une situation.
Non, je n'aime pas le terme gérer.
De faire face à une situation.
Oui, là, ça change tout, parce que l'idée ici, c'est de dire que les moments de crise, si on peut appeler ça comme ça,
oui. Par un... il faut qu'il y ait une crise.
Ce sont des signaux, oui. Ce sont des appels, ce sont une volonté. Donc ils sont en soi les modalités de la relation. Ils ne sont pas juste des
exceptions. Exactement.
Ils sont il y a un surgissement de la relation dans ce cas-là, peut-être le plus fort. Ce n'est pas juste une exception par rapport à la relation. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut régler. C'est quelque chose qu'il faut assumer, qu'il faut prendre en charge.
Est-ce que
je pense ça que vraiment un constat d'éloignement,
je pense que c'est ça.
Est-ce que je peux ajouter quelque chose pour aller dans le sens de Bernard aussi? Moi, je propose l'outil à la place de la technique. Moi, j'ai été un peu gênée par aller Dieu entre dans le jeu. Pourquoi ça me gêne un peu? Parce que ça suppose qu'il est extérieur. On a encore affaire à une don technique. Or, si... le jeune, dans le cas donc d'une catastrophe collectif, est considéré comme un outil. On cherche effectivement à se relier pour ne faire qu'un. Vous l'avez magnifiquement expliqué, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la communauté ne fait plus qu'un et est à l'image réellement. Mais qu'est-ce qui se joue lorsque nous jeûnons individuellement et collectivement? Nous appelons, mais en même temps, ce Dieu, il n'est pas que cosmique, que là-haut, que quelque part ailleurs, que extérieur, il est à l'intérieur de moi. Et c'est chacun individuellement qui doit se sentir responsable. Et c'est là que tout se joue dans cette collectivité, c'est la somme des individualités qui, elles, peuvent jouer, utiliser cet outil, non seulement... Il n'y a rien de magique, effectivement, dans le... On n'a pas prononcé le mot magique, mais il n'y a aucune magie dans le fait de se réunir et de jeûner ensemble. Il y a une prise de conscience, une humilité qui va faire que je vais peut-être agir autrement, individuellement. Mais ça, il faut le collectif pour cela. Là, donc, ce que j'avais à ajouter.
Je comprends pas pourquoi on voit la technique de manière si péjorative.
Oui, non plus.
J'ai beaucoup de mal. Enfin, la technologie, c'est autre chose, mais la technique, non, ça peut être le résultat d'un savoir, et en plus, ça. Parce que tout à l'heure, vous disiez, le jeûne permet de rompre avec le monde et d'accéder à une transcendance, etc. Pourquoi est-ce qu'il faudrait s'extraire du monde ou rompre avec le monde? Enfin, après, c'est peut-être juste ma conception du judaïsme. À quel point la matière est négative? À quel point le monde est négatif dans le judaïsme? Non. Donc, pourquoi est-ce que cette rupture? Pourquoi est-ce qu'il y a une nécessité de cette rupture? Bon, c'est deux questions différentes.
Pourquoi vous êtes
jeûné? Non, mais ce que je sentais comme opposition dans l'exposé, c'était qu'il y avait des techniques qui étaient un peu vaines et qui s'accumulaient et qui ne permettaient pas de vraiment traiter le problème. Et qu'en en opposition à ça, il y avait au contraire le jeûne qui permettait non seulement l'assemblée, donc une unité du collectif, etc., mais qui en plus avait quelque chose que ces techniques du quotidien, de la fabrication vaine, n'avait pas. Et donc, en fait, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que je cherche, c'est qu'est-ce qui le distingue, vraiment. Je vois pas à quel point c'est l'idée de parler d'une technique du corps, parce que c'est
une technique de corps, mais c'est aussi une technique de communication.
C'est ça que je veux dire.
C'est avec vrai. Dieu.
D'accord. Mais bien sûr, oui, mais ça, avec qui d'autre?
D'accord, mais elle se fait, ce que je veux dire, c'est qu'elle se fait précisément. Je me demande si elle ne se fait pas précisément par le corps.
Parce que si on cite une technique de communication, il y en a d'autres. Pourquoi on est gêné par l'idée de technique? Parce que nous, ça nous rappelle, bah, j'ai un problème, je peux faire un peu de yoga, un peu de sophrologie, tout se vaut. C'est ça que je veux dire. On ne cherche pas la spécificité, on cherche à penser, on va communiquer par une technique. Moi, c'est quoi cette technique? Est-ce qu'elle a de différent des autres? Et qu'est-ce qu'elle nous apporte de différent? Ben, peut-être c'est ça qu'il faut s'interroger.
Mais non, mais j'ai l'impression que c'est difficile de caractériser ça. Je pense que...
Parce
que juste un point. C'est que quand on parle de technique, si on considère par exemple l'objet technique qui concentre pour nous le concept de technique, un objet technique est parfaitement maîtrisable, reproductible, anticipable, et il ne nous échappe pas par nature. Si ce stylo se met à fuir, c'est un mauvais objet qui ne correspond pas au concept de technique. Et donc il y a dans le concept de technique une dimension d'automatisation, de prévisibilité, d'anticipation. Et c'est d'ailleurs une technique qui ne marche pas, c'est une mauvaise technique ou c'est qu'on ne possède pas la technique. La bonne technique, c'est le sens du concept de technique. Donc j'ai envie de dire que si tout d'un coup on introduit dans le rapport à Dieu le concept de technique, tout d'un coup, on mécanise, on automatise le jeu et on lui ôte tout ce qu'il peut y avoir, parce que Dieu justement est dans le jeu, tout ce qu'il peut y avoir d'un peu imprévisible, qui caractérise la transcendance.
Si on remplace technique par pratique réglée.
Pratique réglée, alors il faut s'entendre. Pratique réglée de quoi? Du corps, oui sans doute, au sens de mots technique du corps, c'est-à-dire qu'il y a des manières de jeûner. La veille, il faut, paraît-il, manger du raisin ou boire 2 litres d'eau.
C'est des pratiques d'adresse, mais pas simplement par rapport à son corps.
Oui, mais
c'est des pratiques, la prière, c'est bien. C'est
d'accord, pratique. Non, mais je veux dire.
C'est bien la récitation.
Absolument,
c'est
non,
bien
non.
Une
je veux bien qu'il y a.
Qui se fait dans certaines circonstances.
Absolument. C'est pour ça que.
Moment,
absolument, mais vu à ce niveau-là, vu à ce niveau.
Absolument. Ou bien elle doit être dite à haut.
Mais dans ce cas-là, toute ritualité, tout rite passe par cette dimension technique. Et on appellera dans ce cas-là. Technique, ce qui caractérise le rite dans la reproductibilité de ses actes, etc. Je te l'accorde. Mais ce geste-là n'épuise pas la totalité de la relation dans laquelle il s'insère. C'est-à-dire qu'il y a bien une dimension de rite dans la prière, dans l'office, qui est réglée, mais on ne peut pas épuiser la prière à cette ritualité potentiellement mécanique. Parce que la relation, elle est infiniment plus riche que cette dimension-là. Donc, dire que la prière... Il exige un chazan et un entre Dieu et le Kaal ou celui qui prie. Dire que la prière exige ou le jeûne exige que la prière soit faite de telle ou telle façon, que le kaddish soit prononcé à telle heure, ça ne signifie pas que la prière s'arrête dans la stricte récitation, dans la stricte mise en œuvre de ce dispositif réglé. C'est qu'elle est bien plus complexe et elle met en jeu bien autre chose. C'est pour ça que le mot technique est gênant.
Mais alors, pratique réglée.
Pratique réglée, la prière a une dimension de pratique, le jeûne a une dimension de pratique réglée, mais une seule. Sur ce point, je veux bien l'accorder. Mais ça n'épuise pas la dimension du jeûne.
Et il me semble qu'un indice par rapport à ce que vous dites, c'est que peut-être que ce que
ça n'est que la solution. La seule solution qu'on propose, c'est sous l'angle d'une solution. C'est-à-dire que ces techniques ne sont là que pour être la solution ultime de toute chose. Dans le Ta'anit, encore une fois, je ne suis pas du tout persuadé qu'on exclut la technique par ailleurs. S'il y a des techniques à mettre en œuvre, c'est même un devoir absolu, quoi. Il faut le faire, on va sauver la vie des gens, on est là pour faire quelque chose, pas pour rester les bras ballants. Mais de penser que c'est là tout le champ de la réflexion, c'est là le problème. S'arrêter à ça, c'est ça le problème. Donc aucun problème avec la technique en tant que telle, mais sur le rapport qu'on a avec cette technique comme la solution ultime, peut-être c'est ça le souci.
Pardonnez-moi. Au lieu de vouloir ajouter, aussi bien évidemment, la technique entre guillemets du jeûne est bien réelle, ne suffit pas. Si donc au lieu de vouloir ajouter quelque chose pour parer aux difficultés, je pense au bitoul, c'est-à-dire on se retire quand on jeûne, c'est une forme de bitoul, On fait place à autre chose. On fait place au divin. Donc là, on n'ajoute plus rien. Forme de retrait pour pouvoir accueillir autre chose. En soi aussi.
Mais là, la question de Tahanit, c'est pas d'accueillir quelque chose, c'est quand même le problème de la plume. Et je veux dire, dans Tahanit Esther, le problème, c'est pas. C'est pour ça que dans Esther, que je connais un peu mieux, c'est je veux dire, tous les midrashim vont en fait dramatiser le moment, rajouter le moment où Esther va se rendre. Auprès du roi, et elle risque la peine de mort, puisqu'elle est pas de sa propre initiative, qu'elle n'a pas été convoquée. Et à ce moment-là, comment
elle demande de jeûner pour elle. Le peuple, c'est bien un jeûne, le jeûne d'Esther, le jeûne collectif. Et elle va s'adresser. Et pendant qu'on jeûne pour elle, le Midrash rajoute qu'elle. Elle s'adresse à Dieu. Donc en fait, ce qui se passe là, c'est quand même une espèce de demande d'intervention. C'est ça le tout le point. C'est une demande d'intervention. Comment ? Mais personne ne dit qu'elle est programmée d'avance. Personne ne dit qu'elle est programmée d'avance. C'est comme dire partir en guerre, c'est pas programmé d'avance qu'on gagne la bataille.
C'est pour ça que je veux dire tout simplement.
Oui, d'accord, je suis d'accord. Simplement, il faut le ressaisir dans cette dimension-là. Et il ne faut pas le ressaisir dans une dimension de subjectivité. Il faut le ressaisir dans une dimension d'une pratique réglée qui vise l'effet maximal. Mais l'effet maximal sur qui ? Sur Dieu, puisque c'est son intervention qui est demandée. Et naturellement, le moment de jeûne est particulièrement dramatique parce que c'est le moment où on vise l'effet maximal. C'est ça qui est demandé. C'est pour ça que c'est une mobilisation. C'est l'effet maximal. Si l'effet maximal échoue, si Esther échoue, ben on sait. Alors à ce moment-là, c'est la catastrophe. Donc il faut qu'elle réussisse. Voilà.
Et pourquoi le jeûne aurait un effet maximal ? Un jeûne collectif.
Et bien parce que c'est une intensification maximale par une pratique.
Et quel mot vous mettriez derrière ce maximal ? Pourquoi le jeûne n'est pas autre chose ?
D'abord, il est collectif.
Voilà, d'accord.
Okay. Et pourquoi il est non seulement déclaré et il est déclaré sans, si j'ai bien compris. Sans le consentement de chacun, donc là c'est vraiment les déclarer sans le consentement, donc toute subjectivité est complètement abolie, on ne vous demande pas si vous voulez participer ou pas participer, donc c'est un moment de ce qu'on appelle la mobilisation totale. Pour moi, le jeûne.
Ça pourrait être une manifestation, venez, on va se réunir tous ensemble.
Eh bien, ça pourrait l'être.
Alors pourquoi ça
ne
l'est pas ?
Eh bien, ça ne l'est pas.
Pourquoi ? Quelle est la spécificité ?
Ça n'est pas parce que en exil, Israël n'a pas de roi, parce qu'il faut reprendre là toute la situation particulière des possibilités de mobilisation. Alors là, j'ai été surpris, parce que dire qu'à Babylone, il n'y a pas de tzibour, on est désarçonné hein, par cette affirmation. Bon, apparemment, elle est contestée après, c'est pas très clair. Mais voilà, c'est pourquoi cette technique-là, pourquoi cette pratique réglée-là, pourquoi ce type de mobilisation.
Non, on n'a pas répondu à pourquoi le jeûne. C'est-à-dire qu'on évite.
Pourquoi le jeûne ? Pourquoi est-ce que le
jeûne ? On évite. Pourquoi ? Parce qu'on veut éviter une relation. Parce qu'en mettant la technique, c'est on met au même point la transcendance, on la rend dans une immanence. C'est-à-dire que ce jeûne-là n'est fait que pour sortir de l'ordre du monde matériel et d'être dans une collectivité maximale à l'intérieur d'un ordre du monde différent, qui ne puisse se faire que dans l'accueil et une relation. Si, évidemment, on continue à manger, on continue à être dans un ordre matériel du monde, On ne peut pas avoir cette relation.
C'est vrai, mais écoutez la leçon qu'on vient d'entendre. Qu'est-ce qui enclenche un Taanit Tzibour? Quand est-ce que un Taanit Tzibour s'enclenche quand il y a imminence de la catastrophe? C'est bien ça. C'est ça la condition. Donc on est dans un... On nous décrit quand même le contexte de pertinence du surgissement du Taanit Tzibour. Et ce contexte, c'est un contexte de pression maximale.
Et alors
on constate, je n'invente rien, je constate, on vient de recevoir la leçon, qu'en contexte de pression maximale, intervient quelque chose, il y a la possibilité qu'intervienne quelque chose qu'on appelle Taanit Tzibour. Et je conclus du fait que la menace est maximale, que la mobilisation est proportionnée, donc aussi maximale. Alors il y a peut-être eu des situations, il y a eu des choses encore plus... Enfin, ça rentre peut-être pas dans le cadre strict de la halakha, ça posait tout un ensemble de questions compliquées. Mais je pense que le jeûne collectif est une forme de mobilisation maxime. C'est ça que les Juifs peuvent faire au plus fort de leur concentration d'efforts pour parer une situation de catastrophe.
Oui, quand on dit qu'ils peuvent faire, c'est-à-dire qu'ils ne font rien, en fait, ils en font moins, puisque le jeûne, c'est une forme minimale, le minimalisme, les politiques. Je me demandais,
c'est une antipolitique, c'est une politique pauvre comme on l'a abordé parfois ici. C'est une forme pauvre comme la Shtetl Hanout, c'est une forme de politique qui n'est pas fondée sur la puissance, pas sur l'action, mais au contraire sur son inverse, et qui pour moi est assez difficile à penser, je dois dire, mais qui serait peut-être une politique juive originale, pour nous, parce que c'est le sujet du séminaire.
SF. Oui, alors, j'ai quelques peut-être propositions à faire. Alors, concernant la technique, peut-être on peut proposer une autre vision. C'est-à-dire qu'on parlerait de technique quand on parle de matière, d'organisation de la matière. D'accord. Et on parlerait à ce moment-là de quelque chose de plus spirituel quand on parlerait d'esprit. Et du coup, pour répondre à votre question, savoir pourquoi les textes iraient contre une technique, ça serait de dire est-ce que la matière a construit l'esprit ou l'esprit a construit la matière. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je veux dire. Du coup, nous, en tant que croyants, on va dire que forcément c'est un esprit divin, certes, qui a créé de la matière. Et donc qu'une réponse par organisation de la matière ferait fi d'un esprit qui veut nous mettre dans une direction. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Du coup, technique et spiritualité, je le situerais plus sous une organisation matérielle ou sur un esprit qui s'exprime à travers la matière, qui seraient deux choses un peu distinctes. Après, concernant vous avez parlé du jeûne et du Tzibour. Alors, j'ai pas saisi. Je vois qu'il y a deux variables, certes, le Tzibour et le jeûne. J'ai pas saisi la part que chacun représente et à quel moment on fait intervenir plus le Tzibour et à quel moment on fait intervenir le jeûne. Est-ce que le jeûne, le fait de faire un jeûne, c'est une définition du Tzibour, de dire un Tzibour, c'est quelque chose qui est capable de se réunir et donc ça serait là en l'occurrence très matériel et ça serait ou bien vous serez en train de dire. Le Tzibour, c'est quelque chose, le public, c'est quelque chose qui permettrait de réunir, non pas sur de la technique comme Nimrod, mais sur quelque chose de spirituel. Et du coup, j'ai peut-être un éclaircissement à proposer, ça serait de dire que, en fait, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est de dire en quoi le Taanit est une réponse au problème de pluie, c'est ça, c'est bien compris. Déjà, est-ce que le problème de pluie est un problème de Tsibourg? Ça serait peut-être aussi une question à se poser. Est-ce que la pluie peut être un problème de pluie peut être créé par une faute individuelle, une erreur individuelle, ou bien c'est une erreur qui serait collective et donc qui devrait être répondue collectivement? D'accord? Du coup, quand on regarde un peu les textes, on voit cette notion-là que la faute, disons, de la faute que il y a des fautes qui peuvent faire des problèmes de pluie et que c'est ces mêmes fautes qui peuvent être réparées peut-être par le jeûne et que ça toucherait exactement. Alors on peut parler réparer, et là ça serait technique, mais on peut parler spirituellement et dire que ça fait appel aux mêmes zones du corps, aux mêmes besoins, aux mêmes réflexions. Voilà, grossièrement. Pour résumer mes deux questions, c'est de dire comment on, à la fin de ce développement que vous avez fait vraiment magnifiquement, comment vous définissez du coup le tzibour et quelle part dans ce tzibour-là le ta'anit prend. Voilà, grossièrement mes questions.
Il y a la formation indéniablement dans le cadre. Si vous voulez, il y a une évolution. Alors, il y a, comme j'ai expliqué au début, on va mettre en marche des processus qui vont crescendo. Et un des sommets, c'est cette dimension du ta'anit tzibour. Donc j'ai l'impression que, d'une manière ou d'une autre, le ta'anit est l'occasion de l'expression du tzibour. Il est la possibilité, en tout cas, où est-ce qu'on le voit surgir véritablement. Il y a des convocations d'assemblées avant. On voit des tchilotes, des prières collectives, qui ont une grande importance, qui sont d'ailleurs, qui vont avec le ta'anit tzibour. Mais il me semble que ce signe-là, que j'ai, enfin, peut-être par abus de langage appelé politique, me semble, dans le processus, ne surgir qu'à l'occasion du ta'anit.
Donc ça, si le problème est collectif, si on dit que ce qui abîme la pluie, enfin ce qui fait un dérèglement climatique, est un problème collectif, il est normal que la réponse soit collective, mais ça ne définirait pas la collectivité.
Je ne suis pas d'accord, pour une raison simple. C'est que on a vu le Maharal qui parlait de Harvard, de notion de responsabilité, très clairement sous le contrôle de Rabenstein. Chez les sages, il y a cette dimension de faute individuelle et collective qui serait bon, c'est individuel, laisse tomber. Il y a dans le ta'anit tzibour, il y a une recherche d'aller à la quête des fautes individuelles aussi, c'est-à-dire que la communauté est responsable des fautes individuelles. Se laisser se développer des attitudes catastrophiques au sein d'une communauté, et on le voit dans plusieurs Mishnayot, dans Pirkei Avot qui parlent de ça. C'est aussi une faute de la communauté. On a nécessairement une responsabilité collective à l'égard des actes individuels. Donc distinguer l'un dans l'autre en disant ne peut être convoqué ou ne peut naître une catastrophe collective que de faute collective, je ne pense pas que ce soit le cas. Parce que dès lors que se multiplient ou même qu'existent des fautes de cette nature au sein d'une société, la société va en devenir responsable si elle ne les prend pas en charge. Mais il me semble.
Vous aviez tout à fait raison d'évoquer la figure du bouc émissaire au début de votre exposé. Parce que, notamment, le bouc émissaire pourrait fonctionner si la faute localisable ou individualisable, elle est ramenée immédiatement
à la faute, au plan du collectif. Et c'est là, c'est à l'intérieur de cette. Puisque ça fait unité, qu'il n'y a qu'aucun élément ne peut être détaché pour se retourner contre lui. Donc ça, c'était très, c'est très juste.
Tout à l'heure, on parlait de la spécificité du jeûne et vous parliez de la demande. Comme si l'unité avait plus de force, sans doute, par rapport à une demande, et donc effectivement on peut parler de technique de rassemblement pour s'adresser à Dieu et avoir plus de force. Mais je crois qu'on oublie l'idée du collectif, c'est-à-dire que ce n'est pas que vertical, c'est aussi horizontal. C'est-à-dire qu'on les réunit. En gros, l'idée, c'est vous vous êtes éparpillés, les fautes qu'il y a eu, c'est pas forcément les fautes avec autres, les autres extérieurs au Tsibourg, mais entre vous. C'est-à-dire donc c'est de ramener les gens à travers une épreuve commune. Et c'est pas n'importe laquelle pour convoquer la responsabilité qu'ils ont, pas forcément envers HM, mais envers les autres, qui forcément est une relation avec HM aussi. Et donc c'est ça qui compte, c'est l'idée du collectif dans une relation verticale mais aussi horizontale. C'est en ce sens que c'est pas que une technique. Je crois, mais bon, on s'en fout, on va pas rester que là-dessus, mais que ce n'est pas qu'une demande. C'est pas juste les gens, ils demandent. C'est ma responsabilité.
Dans cette idée-là de mettre à plat toutes ces dérives, c'est vraiment associé à l'option.
Mais la raison que vous pourriez aller jusqu'à dire, mais c'est une vraie question. Au-delà du construire une relation et de demander, en fait, cette demande, en quelque manière, se répond à elle-même dans la constitution de la solution. Elle s'auto-répare. C'est une vraie question. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Et je trouve que ça soulève deux questions. En fait. C'est-à-dire l'identification d'une catastrophe majeure. Qu'est-ce qui serait une catastrophe majeure? Et le fait de quelle est l'autorité en diaspora, puisque ça n'arrive pas, ça pourrait être qu'en Eretz Israël, est-ce que ça, c'est, si on extrapole, c'est peut-être du délire. Hein, quelle serait l'autorité capable de réunir les Juifs pour dire il y a une catastrophe? L'éparpillement d'une autorité spirituelle ne permet plus ça.
Ici, on aurait pu avoir le Rech Galuta. Et ce qui est si surprenant dans ce sujet, au fond, pour moi,
la figure du Rech Galuta convenait parfaitement comme l'équivalent du Rech de l'exilarque.
De l'exilarque.
Et c'est vraiment le pendant du nazi. Or, de ce que j'ai pu étudier, j'ai fouillé ce problème, je vois nulle part cette idée que l'exilarque pourrait prendre la place du nazi. Il y a cette intuition quand même chez les géonymes. J'ose pas le dire, je le dis avec énormément de pincettes, mais enfin, je me suis demandé jusqu'à quel point le fait que les géonymes aient souhaité substituer la figure du racham à celle du nazi stricto sensu comme institution, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas chez les géonymes une volonté de dire désormais les nazis, ils sont chez nous, chez les sages. Il y a la possibilité de voilà, maintenant nous avons la continuité et ça continue à Babel. C'est juste une affabulation personnelle, mais je me suis demandé, je suis perturbé par cette. Qu'est-ce qu'ils font? Comment les géonymes lisent le texte? Comment ils lisent l'idée Entanitzim Bourbé Bavet si tant est que si vraiment la question c'est seulement la question du savoir et de l'érudit.
C'est l'idée que j'ai dit, c'est que. Il me semble que, d'ailleurs, c'est la différence avec Esther. Pourquoi Esther, le Ta'anit Tzibour, se fait en dehors d'Israël? Parce que c'est une zéra, c'est une catastrophe ciblée sur le peuple juif. Je l'entends, prime abord, si tu veux, dans le Ta'anit de Babel, c'est donc, ce serait à ce moment-là, c'est que. C'est une catastrophe parce qu'elle est climatique qui vise, qui se répercute sur tout le monde indifféremment. Donc sans que ça appelle une sorte de retour sur soi, si tu veux, des Juifs. Tandis que quand c'est en Eretz Israël, ça, c'est tu vois, si jamais ce qui se joue à ce moment-là de collectif. Rencontre quelque chose comme une sécheresse anormale, alors ça, la logique d'un retour sur soi est cohérente. Donc maintenant, il semblerait que les géonymes,
eux n'ont pas lu comme ça, à vouloir effectivement ramener le Nassi comme figure de la sagesse. Maintenant, juste un point sur ce point-là, c'est que ce qui est très intéressant aussi sur l'action du Nassi, c'est le rédacteur de la Mishnah, Rabbi Yehuda Hanassi. Oui. On voit bien qu'il y a comme une sorte de sommet, il y a quelque chose d'une logique, il y a quelque chose qui, voilà, c'est de ça dont on devrait normalement parler.
D'ailleurs, pour faire quoi ce que tu dis, ça veut dire dans l'Yerushalmi, qui est-ce qui surgit? C'est son petit-fils, quoi. C'est Rabbi Yehuda Hanassi. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, il y a une sorte de continuité. Cette logique, elle est présente, quoi. Elle est présente.
Okay, parce qu'on peut imaginer des catastrophes qui sont, je ne sais pas, l'invasion de l'Israël. Oui, mais dans le Talmud.
Dans le Talmud, il y a des guerres, il y a des épidémies.
Okay.
En particulier, alors c'est un peu effrayant, au moment du Covid, c'était amusant de voir ce sujet ressurgir.
Sur le Talmud, si vous.
Toute la question de savoir est-ce qu'il y a un Tzibour ou pas, mais sur l'invasion Rambam, ça va être difficile à défendre. Alors, il y a un débat dans les questions. Certains pensent que le Tzibour n'existe que pour la sécheresse, pour d'autres, c'est pour tous les autres.
Mais tu peux être mis dans le jeu.
C'est un débat, il y a plusieurs choses. Je ne sais pas.
Il y a un cas dans la Gemara où on parle d'autre chose que de la sécheresse.
Pourquoi pas, effectivement. C'est ça. Mais dans les Rishonim,
parce qu'ils font une déduction de dire que c'est vrai pour tout cataclysme qui toucherait Israël. Il y a un point, effectivement, ce qui serait pour le coup de dire, effectivement, si la technique marche là, pourquoi elle ne marcherait pas aussi là. Mais dans la Gemara, me semble-t-il que c'est proprement la sécheresse.
Dans mon souvenir, je suis d'accord.
Et juste, moi, j'aurais juste glissé une histoire juive qui me travaille depuis tout à l'heure, qui est une sorte de contrepoint dialectique. Il y a l'annonce d'un grand tsunami qui va recouvrir toute la planète. C'est fichu. Et là, donc, tu as le pape qui fait une annonce qui appelle tous les croyants à prier, à se recueillir et à prier. T'as le grand moufti de la Mecque qui appelle tous les musulmans à se recueillir et à prier parce que bon, là, c'est la fin. Et puis t'as le grand rabbin d'Israël qui vient à la Knesset et qui dit bon, parce qu'ils ont annoncé le tsunami dans 30 jours. Le grand rabbin, il arrive à la Knesset et dit nous avons 30 jours pour apprendre à vivre sous l'eau. Donc c'est pour utiliser la pratique réglée d'une efficacité maximale. là, on est dedans. Là. Mais oui, c'est en même temps, mais là, c'est sur le fait que oui, il y a cette joie de vivre, de joie du monde, et d'être pragmatique, et de l'Echaïm. Effectivement, tu as tout à fait raison.
Pour revenir à la question des formes, donc de catastrophes, la guerre, quels exemples sont donnés de guerre? On dit juste.
Dans mon souvenir, il y a un siège d'une ville.
Voilà, le siège.
Le siège d'une ville. Et puis, bon, la question des épidémies.
Il y a quelque chose qui ressemble aux Xérotes, par exemple, aux persécutions.
Si, bien sûr, mais je n'ai pas le souvenir précis des cas. Il y a aussi des invasions de bêtes sauvages dans la Gemara, mais précisément sur les Xérotes et leur définition, je ne l'ai pas en tête. Je me rappelle très bien du siège, mais les autres, ça. Des guerres, bien sûr, évidemment. Dans la Gemara, il y a tout un débat sur les guerres et lorsque ça c'est un point vraiment passionnant à creuser. Lorsqu'il y a une guerre dans une ville voisine, est-ce qu'on doit nous jeûner ou pas? Est-ce qu'on va se sentir concerné ou pas? Jusqu'à quel point on est impliqué par les conflits voisins? Et ça c'est un point pas mal analysé dans la Gemara. Ouais. L'actualité nous rattrape. L'actualité dans la page.
Je voulais d'abord dire que il y a toujours deux choses complètement distinctes, en fait. Le jeûne et la prière, c'est pas du tout la même chose. Et dans les cas qui ont été cités, il y a le jeûne et il y a la prière, y compris dans le cas cité sur Esther. Elle a jeûné, mais elle prie aussi. Et ce sont deux choses complètement différentes. Le jeûne, c'est d'une certaine manière payer de sa personne. Et payer de sa personne, ça veut dire, c'est le contraire de ce que, quand le Rambam dit qu'il y a le problème d'Arzariut, qui est l'étymologie, enfin la pseudo-étymologie de Arzariut, de Arzar, ça veut dire uniquement étranger, c'est-à-dire se sentir complètement étranger à ce qui se passe. Ça ne me concerne pas. Et donc, on vient dire ici, ça me concerne, et pour matérialiser ce « ça me concerne », je vais payer de ma personne. Et ensuite, en payant, je paye de ma personne, et ensuite, il y a une prière qui est de l'ordre de la demande. Et maintenant, sur le point, alors, pourquoi est-ce qu'il faut que le Nassi et le Avedin soient aussi dedans? Parce que sinon, il n'y a pas de Sibour. Comme ils ont un statut à part, le Nassi, il n'apporte pas les mêmes corbanotes quand il fait des fautes que monsieur tout le monde. Le Avbeddin, il a la Torah, si on veut. Ça leur donne un statut à part. Et donc, le Tzibour, il n'existe pas vraiment si le Nassi est... Donc, il y a ce statut à part, politique ou autre chose, je ne sais pas, peu importe. Et le Avbeddin, ils représentent la Torah dans le peuple, etc. Si eux ne participent pas, alors il n'y a pas de Tzibour, c'est simple. Et donc c'est un peu simpliste, si vous voulez, peut-être, mais je crois que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc il faut manifester ma non-arzariut, alors ça c'est en payant de ma personne. Ensuite, le ta'anit, ça n'est pas, enfin, autant que je comprenne, c'est pas du tout la même chose que la prière, on ne demande rien, c'est pas. Il ne s'agit pas d'entrer en communication avec Hachem par ce biais-là. Il s'agit de travailler sur nous. Dans la mesure où on considère qu'on a quelque chose à voir au niveau de la causalité des tuiles qui me tombent sur la tête, alors il faut se changer. Et quand je paye de ma personne, quelque part, je montre que je suis sur un chemin de changement. On va changer quelque chose. On va faire tchouva. C'est le travail personnel, ce travail... au niveau horizontal. La prière, ensuite, la dimension verticale, sera donnée par la prière. Juste encore un point sur l'histoire des techniques. Vous avez ramené la tour de Babel, mais Hachem, dans la tour de Babel, Hachem dit, si je les laisse faire, ça va marcher. Pourquoi Hachem intervient? Il dit, parce que s'ils sont comme tout le monde, et ils sont unis, ils ont cette force de l'union, quelque chose, en tout cas, va se faire. Pourquoi Hachem n'a pas laissé faire? Si ça n'a aucune importance, laisse faire. Alors, ça ne marche pas. Ça veut dire Hachem ne voulait pas, alors il faut entrer dans le détail de pourquoi il ne voulait pas qu'il puisse faire cette chose-là. De toute manière, ils n'auraient rien pu faire contre Hachem, disons, du point de vue de la Torah. Mais pourquoi on ne les a pas laissés faire? On laisse des gens, Hachem laisse souvent arriver, jusqu'à ce que la mesure soit pleine. D'accord, que ça déborde, bon, il laisse faire jusqu'à ce qu'il se casse la figure complètement. Ça existe. Il ne l'a pas laissé faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'efficacité. Il y a une efficacité, mais ce n'est pas celle-là qui était recherchée, en tout cas. Ce n'est pas ça qu'Hachem voulait. À ce moment-là, il considère que si c'est ça, alors le monde, le projet divin a raté, jusqu'à ce qu'il vienne quelqu'un qui ose dire, moi je vais prendre le travail pour moi. C'est Abraham qui dit, moi je vais faire le job. L'humanité ne fait pas le job, moi et ma descendance, j'en ai aucune pour l'instant, mais on va faire le job. Et puis quand on l'aura fait, on dira que l'humanité a réussi. Mais c'est nous qui allons faire le travail, et puis ensuite on va dire que l'humanité a réussi. Et donc, cette notion de Tzibour, effectivement, pourquoi il n'y a pas de Tzibour en Babel, on peut... Je pense que vous l'avez dit ou que quelqu'un l'a dit déjà. C'est parce que la pluie qui ne tombe pas, elle ne tombe pas sur toute la Babylonie, disons comme ça. Alors qu'est-ce que les Juifs vont faire là-dedans? Il n'y a pas de Tzibour qui est concerné. Le Tzibour qui est concerné, c'est tous les habitants de Babel, juifs et non-juifs. En Eretz Israël, quand quelque chose tombe sur le clan d'Israël, enfin sur les gens-là, c'est les Bnei Israël, ils sont tous concernés. Donc on peut faire un Ta'anit Tzibour, il y a une vraie notion de Tzibour. Alors ça va certainement, ça dépend un peu des rishonim que vous avez cités, si on parle de Avbet Din, enfin de Bet Din qui a pas de samchout en Chutz La'aretz, alors il faudra un peu arranger ça, mais il y a une des réponses qui est effectivement tout à fait ça. Il n'y a pas de sibour concerné spécifiquement en galoute, quoi, partout en galoute. C'est pas, il y a pas, les juifs sont pas concernés spécifiquement. Donc il n'y a pas une réponse spécifiquement juive. Bon, c'est un peu élémentaire, mais c'est comme ça, c'est a priori.
Mais ça vaut pour les catastrophes.
Pardon ?
Ça vaut pour la catastrophe climatique, mais ça vaut éventuellement pas pour d'autres catastrophes.
Ben, si la guerre ne concerne pas les Juifs spécifiquement, mais tous les pays.
Et si elle les concerne spécifiquement ?
Alors, si c'est spécifiquement juif, oui. Alors, premièrement, c'est compliqué. Bon, alors on pourrait dire l'exemple, la Shoah, ça concernait spécifiquement les Juifs, mais c'était noyé dans les 20 millions de Russes, etc. Donc, ça n'apparaissait pas comme, à l'évidence, ne concernant que les Juifs. C'est ça le problème. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse spécifiquement juive. Enfin bon, c'est ce que je pense comme ça.
Les guerres ont concerné spécifiquement. Prenez le cas d'un pogrom. Concerne spécifiquement.
Oui, mais un pogrom, premièrement, je ne sais pas si le pogrom. Quand c'était très local, je ne sais pas si ça avait une dimension de... Si on allait lui donner une dimension de catastrophe et de tzibour, etc. Et à ce moment-là, c'était pas... Bon, la réponse, on voit bien qu'il n'y a pas eu de réponse. Pourquoi ? Pas parce que... Il n'y a pas de réponse, mais parce que les gens ne sont pas organisés. Il n'y avait probablement pas un corpus qui pouvait répondre, quoi.
Dans le cas d'Esther, oui.
Alors elle, la Xéra concernant les Juifs, alors elle a fait quelque chose, le Tanit Sibour là-bas, je ne sais pas exactement si ça avait un vrai digne de Tanit Sibour, parce que c'est les gens de Suse, alors que tout le monde était concerné, mais il n'y a que les gens de Suse pratiquement, de Shushan, qui ont vraiment, qui étaient à portée de main, qui pouvaient jeûner, etc. Donc de toute manière, il n'y a pas eu vraiment un Tanit Sibour. Tous les Juifs qui n'ont pas été même contactés, je pense qu'ils n'ont même pas entendu ce qui se passait. Donc, bon, de toute manière, c'est possible que d'abord, c'est Esther qui a donné l'ordre de jeûner. Donc, ça veut dire que c'est en tant que reine, quoi, quelque part. Elle est la reine, et en tant que telle, elle donne cet ordre. Donc, c'est pas une fonction juive qu'elle avait. Donc, c'est pas partie d'une source juive, si on peut parler comme ça. Elle était juive, mais c'est pas une source juive vraiment.
Mais Raph, pourquoi Hachem intervient, n'a pas laissé la tour de Babel s'écraser sur elle-même? Pourquoi il intervient?
Alors, je réponds toujours que j'ai raté le premier cours de psychologie divine, donc non, je ne veux pas répondre. Je sais pas. Non, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Hachem ne voulait pas, n'a pas laissé, laisse-les se casser la figure, je veux dire, quel problème.
Non, tout à l'heure vous avez dit, il a laissé des choses, si ça tombe, ça se casse la figure d'elle-même. Là, il est intervenu.
Là, il est intervenu, donc je ne sais pas pourquoi il est intervenu. Je ne sais pas répondre.
On se pose la question de...
Il me semble qu'il remet l'humanité sur le terrain.
Pardon ?
Il me semble qu'il remet, il redonne une chance à l'humanité. L'humanité était en train de s'enfermer dans une logique.
Oui, c'est. Oui, mais il dit que si on les laissait faire, ils y arriveraient. Je sais pas à quoi d'ailleurs, mais ils y arriveraient.
Oui, justement. Mais en y arrivant, ils allaient se dire, tiens, c'est bon, on a trouvé la solution au problème du monde.
Je dis,
c'est possible. Je sais pas. Je peux pas répondre. Je sais pas. Je sais pas pourquoi Hachem est intervenu là.
Y arriveraient. C'est-à-dire, c'est comme si j'arrêtais avant qu'ils y arrivent, comme si, que si une fois qu'ils y seraient, arriveraient éventuellement, on ne pourrait plus rien faire.
Oui, c'est ce qu'il dit. Hachem dit on ne pourra pas agir, mais ça n'a pas de sens. Hachem peut toujours agir.
Voilà, donc
ce n'est pas ça qu'il veut dire.
Oui, voilà.
Mais je ne sais pas répondre.
C'est ce qui nous aura. Comment dire un mot? Non.
devrait dormir là.
Il a dit qu'il y en aurait plus. Comme elle a dit qu'il n'y aurait plus de déluge, peut-être qu'il fallait s'arrêter avant. Ça aurait été trop terrible.
Je te laisse dire un peu le mot de la fin, David.
J'en ai déjà trop dit.
Mille merci, bravo. Merci beaucoup. Vraiment là-dessus.